nous, le Christ est devenu obéissant jusqu'à la mort, et la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a exalté. Il l'a doté du nom qui est au-dessus de tout nom.
Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus.
Passion de notre Seigneur Jésus-Christ selon saint Luc. Quand l'heure fut venue, Jésus se mit à table et les apôtres avec lui. Il leur dit :
J'ai ardemment désiré manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. Car je vous le déclare, jamais plus je ne la mangerai jusqu'à ce qu'elle soit pleinement réalisée dans le royaume de Dieu.
Il prit alors une coupe, il rendit grâce et dit :
Prenez. Partagez entre vous, car je vous le déclare, jamais plus désormais je ne boirai du fruit de la vigne jusqu'à ce que vienne le règne de Dieu.
Puis il prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant :
Ceci est mon corps donné pour vous, faites cela en mémoire de moi.
Et pour la coupe, il fit de même à la fin du repas, en disant :
Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang répandue pour vous. Cependant, la main de celui qui me livre est là, à côté de moi, sur la table. En effet, le Fils de l'homme s'en va selon ce qui a été fixé, mais malheureux l'homme qui le livre.
Les apôtres commencèrent à se demander les uns aux autres lequel d'entre eux allait faire cela. Ils en arrivèrent à se quereller, lequel d'entre eux, à leur avis, était le plus grand. Mais il leur dit :
Les rois des nations païennes leur commandent en maître, et ceux qui exercent le pouvoir sur elles se font appeler bienfaiteurs. Pour vous, rien de tel. Au contraire, le plus grand d'entre vous doit prendre la place du plus jeune, et celui qui commande, la place de celui qui sert. Quel est en effet le plus grand, celui qui est à table ou celui qui sert? N'est-ce pas celui qui est à table? Eh bien moi, je suis au milieu de vous comme celui qui sert. Vous, vous avez tenu bon avec moi dans mes épreuves, et moi je dispose pour vous du royaume comme mon Père en a disposé pour moi. Ainsi vous mangerez et boirez à ma table dans mon royaume, et vous siégerez sur des trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous passer au crible comme le froment. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne sombre pas. Toi donc, quand tu seras revenu, affermis tes frères.
Pierre lui dit :
Seigneur, avec toi, je suis prêt à aller en prison et à la mort.
Jésus reprit :
Je te le déclare, Pierre, le coq ne chantera pas aujourd'hui avant que par 3 fois tu aies affirmé que tu ne me connais pas.
Puis il leur dit :
Quand je vous ai envoyé sans argent, ni sac, ni sandales, avez-vous manqué de quelque chose ?
Ils lui répondirent. Jésus leur dit :
Eh bien maintenant, celui qui a de l'argent, qu'il en prenne. De même celui qui a un sac, et celui qui n'a pas d'épée, qu'il vende son manteau pour en acheter une. Car je vous le déclare, il faut que s'accomplisse en moi ce texte de l'Écriture, il a été compté avec les pécheurs. De fait, ce qui me concerne va se réaliser.
Ils lui dirent :
Seigneur, voici 2 épées.
Il leur répondit :
Cela suffit.
Jésus sortit pour se rendre, comme d'habitude, au mont des Oliviers, et ses disciples le suivirent. Arrivé là, il leur dit :
Priez pour ne pas entrer en tentation.
Puis il s'écarta à la distance d'un jet de pierre environ. Se mettant à genoux, il priait.
« Père, si tu veux, éloigne de moi cette coupe. Cependant, que ce ne soit pas ma volonté qui se fasse, mais la tienne. »
Alors, du ciel, lui apparut un ange qui le réconfortait. Dans l'angoisse, Jésus priait avec plus d'insistance, et sa sueur devint comme des gouttes de sang qui tombaient jusqu'à terre. Après cette prière, Jésus se leva et rejoignit ses disciples qu'il trouva endormis à force de tristesse. Il leur dit
« Pourquoi dormez-vous? Levez-vous et priez pour ne pas entrer en tentation. »
Il parlait encore quand parut une foule de gens. Le nommé Judas, l'un des 12, marchait à leur tête. Il s'approcha de Jésus pour l'embrasser. Jésus lui dit
« Judas, c'est par un baiser que tu livres le Fils de l'homme ?»
Voyant ce qui allait se passer, ceux qui entouraient Jésus lui dirent
« Seigneur, faut-il frapper avec l'épée ?»
L'un d'eux frappa le serviteur du grand prêtre et lui trancha l'oreille droite. Jésus répondit
« Laissez donc faire !»
Et, touchant l'oreille de l'homme, il le guérit. Jésus dit alors à ceux qui étaient venus l'arrêter, chefs des prêtres, officiers de la garde du temple et anciens.
« Suis-je donc un bandit pour que vous soyez venus avec des épées et des bâtons ? Chaque jour j'étais avec vous dans le temple et vous ne m'avez pas arrêté. Mais c'est maintenant votre heure, c'est la domination des ténèbres. »
Ils se saisirent de Jésus pour l'emmener et ils le firent entrer dans la maison du grand prêtre. Pierre suivait de loin. Ils avaient allumé un feu au milieu de la cour et ils s'étaient tous assis là. Pierre était parmi eux. Une servante le vit assis près du feu, elle le dévisagea et dit
« Il a aussi été avec lui. »
Mais il n'y a.
« Femme, je ne le connais pas. »
Peu après, un autre dit en le voyant
« Toi aussi tu en fais partie. »
Pierre répondit
« Non, je n'en suis pas. »
Environ une heure plus tard, un autre insistait.
Celui-là était avec lui, et d'ailleurs, il est galiléen.
Pierre répondit
« Je ne vois pas ce que tu veux dire. »
Et, à l'instant même, comme il parlait encore, un coq chanta. Le Seigneur, se retournant, posa son regard sur Pierre, et Pierre se rappela la parole que le Seigneur lui avait dite. « Avant que le coq chante aujourd'hui, tu m'auras renié 3 fois. » Il sortit et pleura amèrement. Les hommes qui gardaient Jésus se moquaient de lui et le maltraitaient. Ils lui avaient voilé le visage et ils l'interrogeaient.
« Hé le prophète, qui est-ce qui t'a frappé ?»
Et ils lançaient contre lui beaucoup d'autres insultes. Lorsqu'il fit jour, les anciens du peuple, chefs des prêtres et scribes, se réunirent, et ils l'emmenèrent devant leur grand conseil. Ils lui dirent
« Mais le Messie, dis-le-nous. »
Il leur répondit
« Si je vous le dis, vous ne me croirez pas, et si j'interroge, vous ne répondrez pas. Mais désormais, le Fils de l'homme sera assis à la droite du Dieu puissant. »
Tous lui dirent alors
« Et donc le Fils de Dieu ?»
Il leur répondit
« C'est vous qui dites que je le suis. »
Ils dirent alors
« Pourquoi nous faut-il encore un témoignage ? Nous-mêmes, nous l'avons entendu de sa bouche. »
Les chefs des prêtres et les scribes emmenèrent Jésus chez Pilate. Ils se mirent alors à l'accuser.
« Nous avons trouvé cet homme en train de semer le désordre dans notre nation. Il empêche de payer l'impôt à l'empereur et se dit le roi Messie. »
Pilate l'interrogea.
Le roi des Juifs ?
Tu répondis.
C'est toi qui le dis.
Pilate s'adressa au chef des prêtres et à la foule.
Cet homme, aucun motif de condamnation.
Mais ils insistaient.
Lève le peuple en enseignant dans tout le pays, à partir de la Galilée jusqu'ici.
À ces mots, Pilate demanda si l'homme était galiléen. Apprenant qu'il relevait de l'autorité d'Hérode, il le renvoya à ce dernier, qui se trouvait lui aussi à Jérusalem en ces jours-là. À la vue de Jésus, Hérode éprouva une grande joie. Depuis longtemps, il désirait le voir à cause de ce qu'il entendait dire de lui, et il espérait lui voir faire un miracle. Il lui posa beaucoup de questions, mais Jésus ne lui répondit rien. Les chefs des prêtres et les scribes étaient là et l'accusaient avec violence. Hérode, ainsi que ses gardes, le traita avec mépris et se moqua de lui. Il le revêtit d'un manteau de couleur éclatante et le renvoya à Pilate. Ce jour-là, Hérode et Pilate devinrent des amis, alors qu'auparavant ils étaient ennemis. Alors Pilate convoqua les chefs des prêtres, les dirigeants et le peuple. Il leur dit :
Vous avez amené cet homme en l'accusant de mettre le désordre dans le peuple. Or, j'ai moi-même instruit l'affaire devant vous, et parmi les faits dont vous l'accusez, je n'ai trouvé chez cet homme aucun motif de condamnation. D'ailleurs, Hérode non plus l'a renvoyé. En somme, cet homme n'a rien fait qui mérite la mort. Je vais donc le faire châtier et le relâcher.
Les chefs des prêtres et les scribes emmenèrent Jésus chez Pilate. Ils se mirent à crier tous ensemble.
Mort à cet homme, relâche-nous Barabbas.
Ce dernier avait été emprisonné pour un meurtre et pour une émeute survenue dans la ville. Pilate, dans son désir de relâcher Jésus, leur adressa de nouveau la parole. Mais ils criaient
« Crucifie-le ! Crucifie-le !»
Pour la troisième fois, il leur dit
« Quel mal a donc fait cet homme ? Je n'ai trouvé en lui aucun motif de condamnation à mort. Je vais donc le faire châtier, puis le relâcher. »
Mais eux insistaient à grands cris, réclamant qu'il soit crucifié. Et leurs cris s'amplifiaient. Alors Pilate décida de satisfaire leur demande. Il relâcha le prisonnier condamné pour émeute et pour meurtre, celui qu'il réclamait, et il livra Jésus à leur bon plaisir. Pendant qu'ils l'emmenaient, ils prirent un certain Simon de Cyrène qui revenait des champs, et ils le chargèrent de la croix pour qu'il la porte derrière Jésus. Le peuple, en grande foule, le suivait, ainsi que des femmes qui se frappaient la poitrine et se lamentaient sur Jésus. Il se retourna et leur dit :
Femmes de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, pleurez sur vous-même et sur vos enfants. Voici venir des jours où l'on dira : Heureuses les femmes stériles, celles qui n'ont pas enfanté, celles qui n'ont pas allaité. Alors on dira aux montagnes, tombez sur nous, et aux collines, cachez-nous. Car si l'on traite ainsi l'arbre vert, que deviendra l'arbre sec ?
On emmenait encore avec Jésus deux autres, des malfaiteurs, pour les exécuter. Lorsqu'on fut arrivé au lieu-dit, le crâne ou calvaire, on mit Jésus en croix avec les deux malfaiteurs, l'un à droite et l'autre à gauche. Jésus disait :
Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font.
Ils partagèrent ses vêtements et les tirèrent au sort. Le peuple restait là à regarder. Les chefs ricanaient en disant :
« T'en as sauvé d'autres, qu'il se sauve lui-même s'il est le Messie de Dieu, l'élu. »
Les soldats aussi se moquaient de lui. S'approchant pour lui donner de la boisson vinaigrée, il leur disait
« Tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. »
Une inscription était placée au-dessus de sa tête « Celui-ci est le roi des Juifs. » L'un des malfaiteurs suspendus à la croix l'injuriait
« Pas le Messie, sauve-toi toi-même et nous avec. »
Mais l'autre lui fit de vifs reproches.
« Tu n'as donc aucune crainte de Dieu. Tu es pourtant un condamné, toi aussi. Et puis, pour nous, c'est juste. Après ce que nous avons fait, nous avons ce que nous méritons. Mais lui, il n'a rien fait de mal. »
Et il disait
« Tiens-toi de moi quand tu viendras inaugurer ton règne. »
Jésus lui répondit
« Amen, je te le déclare. » Aujourd'hui, avec moi, tu seras dans le paradis.
Il était déjà presque midi. L'obscurité se fit dans tout le pays jusqu'à 3 heures, car le soleil s'était caché. Le rideau du temple se déchira par le milieu. Alors, Jésus poussa un grand cri.
« Père, entre tes mains, je remets mon esprit. »
Et après avoir dit cela, il expira.
Bon, nous nous mettons à genoux quelques instants.
À la vue de ce qui s'était passé, le centurion rendait gloire à Dieu.
Vraiment, cet homme, c'était injuste.
Et tous les gens qui s'étaient rassemblés pour ce spectacle, voyant ce qui était arrivé, s'en retournaient en se frappant la poitrine. Tous ses amis se tenaient à distance, ainsi que les femmes qui le suivaient depuis la Galilée, et qui regardait. Alors arriva un membre du conseil nommé Joseph. C'était un homme bon et juste. Il n'avait donné son accord ni à leurs délibérations, ni à leurs actes. Il était d'Arimathie, ville de Judée, et il attendait le royaume de Dieu. Il alla trouver Pilate et demanda le corps de Jésus. Puis il le descendit de la croix, l'enveloppa dans un linceul et le mit dans un sépulcre taillé dans le roc où personne encore n'avait été déposé. C'était le vendredi et déjà brillaient les lumières du sabbat. Les femmes qui accompagnaient Jésus depuis la Galilée suivirent Joseph. Elles regardèrent le tombeau pour voir comment le corps avait été placé. Puis elles s'en retournèrent et préparèrent aromates et parfums. Et, durant le sabbat, elles observèrent le repos prescrit.
C'est la grâce de ce dimanche des Rameaux de nous faire vivre à la fois l'acclamation du Christ comme roi humble, envoyé par le Seigneur, et cette passion de Jésus, avec tout ce qu'elle contient comme épreuve spirituelle, affective, humaine et physique. Essayons de faire nôtre ces deux sentiments, ces deux pôles de notre foi. Le premier, cette acclamation joyeuse. Saint Luc, qui est l'évangéliste de la joie, de l'évangile, de la bonne nouvelle, de l'Esprit Saint, insiste sur le fait que les apôtres, remplis de joie, se mettent à louer Dieu à pleine voix pour tous les miracles qu'ils ont vus. « Béni soit celui qui vient, le roi au nom du Seigneur, paix dans le ciel et gloire au plus haut des cieux. » qui nous rappelle le chant des anges à Noël. Il nous faut, en entrant dans cette passion, il nous faut faire grandir en nous cette acclamation du Christ. Il nous faut redécouvrir combien, oui, le Christ est un roi bon. Suivre Jésus, c'est mettre ses pas dans le règne, dans celui qui veut instaurer dès ici-bas un règne de justice, de vérité, de charité, de miséricorde, d'attention au prochain, de pardon, de religion au sens de respect envers Dieu, hein, d'attention à la création, tout cela, tout ce qui est inauguré par le Christ, tout ce qui est la prédication de Jésus, tout ce que Jésus essaye de bâtir, hein, c'est une communauté d'hommes liés par la charité et tournée vers Dieu et vers tous les hommes. Et donc, il nous faut faire grandir, c'est vrai, cette joie d'être membre de l'Église, d'être membre de suivre Jésus dans ce royaume. Parce qu'il n'y a pas de plus belle figure sur terre que celle de Jésus. Quelles que soient les belles figures d'hommes et de femmes qui aient pu exister, Jésus les surpasse toutes de très loin. Nous avons à être heureux et fiers de pouvoir suivre Jésus, d'être ses disciples, nous aussi, de chanter les merveilles que Jésus inaugure, de chanter les merveilles qu'il fait dans notre vie. C'est une grâce, vraiment, d'être disciple de Jésus. Et en cela, nous avons à le chanter, le louer par notre bouche, mais aussi par toute notre vie, par ce désir dans notre famille, de vivre ces relations de bonté, de pardon, de miséricorde, de vivre dans notre travail, dans la société, ce souci de la justice, de la vérité, de la miséricorde, de la bonté, de l'attention aux plus pauvres, à la création, tout cela. Voilà, chantons, ayons à cœur de vraiment rendre grâce pour ce nom de chrétien, d'être disciple de Jésus. Et puis le deuxième pôle, c'est celui de la passion. Eh bien, nous sommes invités à voir que tous nous sommes acteurs de cette passion, et acteurs plutôt, pour une part de notre vie, plutôt du côté de tout ce qui éprouve Jésus, que ce soit Judas, Pierre, les plus proches, qui trahissent ou renient ou abandonnent, que ce soit les pharisiens, ceux qui sont proches par la foi normalement et qui vont rejeter, condamner, que ce soit Pilate qui cède au bruit de la foule. Dieu sait combien est-ce que nous en avons des exemples tous les jours de ce bruit des médias pour l'injustice. Il cède à l'injustice. Que ce soit les soldats qui n'y connaissent rien mais qui se servent de leur force pour la brutalité, ou bien la foule emportée, on ne sait pas pourquoi, et qui va frapper, etc., condamner. Et c'est tout cela, même ces condamnés. Donc, nous savons que nous sommes acteurs de cette passion. En entrant dans cette semaine sainte, nous savons que nous n'assistons pas à un film qui nous est extérieur. Il y avait, quand j'étais jeune, un livre s'appelait Le livre dont vous êtes le héros. Eh bien voilà, la passion, c'est le récit dont vous êtes le héros. Ou disons que Jésus est le héros et nous sommes acteurs. Quel est le fouet que je tiens pour fouetter le Christ? Quel est le crachat que je lui envoie? Tout cela. Nous savons que nous sommes ces acteurs. Et en cela, eh bien, nous avons à redécouvrir combien est-ce que cette royauté du Christ que nous célébrons par les rameaux, eh bien, elle s'étend même à cette misère. Elle s'étend même à la laideur du mal qui est en moi, à la laideur du péché qui est dans le monde. Elle s'étend même à cela. Et c'est précisément ça qui nous fait être encore plus heureux, plus humblement bien sûr, mais encore plus heureux d'être disciples du Seigneur, puisque sa royauté s'étend jusque-là. Il est venu pour nous libérer de ce poids du mal dont nous ne savons que faire. Il nous dit, eh bien, donne-le-moi. Et quand nous le donnons, eh bien, c'est comme dans cette passion, c'est en le frappant finalement. Donc le Christ, nous avons aussi, en entrant dans cette semaine sainte, eh bien, à reconnaître que nous sommes acteurs et nous sommes aussi donc les premiers bénéficiaires de ce salut. Et donc c'est cela la clé de cette cérémonie, mais aussi de toute la semaine, à la fois joyeux, heureux, fier d'être disciple de Jésus, c'est le plus beau des enfants des hommes, et en même temps humble, prosterné, plein de demandes de pardon, devant notre ingratitude, devant le péché qui atteint le Christ directement, pour renouveler dans la nuit de Pâques, eh bien, cette joie d'être vraiment sauvé par le sang du Christ. Ce buis que nous allons emporter chez nous en est le signe. À la fois, il est l'acclamation, et en même temps, il est aussi, parce qu'il est très humble et qu'il a été brûlé pour faire les cendres du mercredi des cendres, il rappelle notre condition de pécheur, il rappelle cela. Eh bien, puissions-nous, en le rapportant chez nous, en le mettant sur la croix, dans notre maison, puissions-nous, eh bien, faire que cette croix, elle règne, elle soit le signe de ce que nous voulons faire de notre vie, des disciples authentiques par toute notre vie de Jésus dans la vie et dans la mort. Amen.